En cherchant le meilleur emplacement pour poser son panier, Nolwenn rencontra une vieille femme qui lui dit
« S'il te plaît, jeune fille, donne-moi quelque chose à manger, j'ai tellement faim. »
Nolwenn, qui avait un cœur d'or, lui donna aussitôt des châtaignes. Elle fit même un feu pour réchauffer la vieille et les faire cuire.
« Mille merci, jeune fille, lui dit la vieille femme. Sans toi, je serais morte de faim. »
Nolwenn poursuivit son chemin et arriva près d'une fontaine au milieu d'une petite place. L'endroit était calme et tranquille. Elle se désaltéra avec l'eau fraîche de la fontaine, et c'est alors qu'elle entendit des petits gémissements. Elle fit le tour du bassin et découvrit deux enfants qui pleurnichaient. Apeurés, ils reculèrent et se serrèrent l'un contre l'autre contre le rebord en pierre de la fontaine. Ils s'étaient perdus. La jeune fille les rassura, leur offrit les châtaignes chaudes qui lui restaient et les raccompagna chez eux, puis, n'ayant plus rien à vendre, elle reprit le chemin de sa maison. Déjà, le pâle soleil d'hiver se couchait. Nolwenn se mit alors à ramasser tout ce qu'elle put trouver pour faire du feu chez elle, car les nuits sont parfois très froides sous le ciel de Bretagne, et on avait du mal à colmater les jours entre les rondins dans les murs de la pauvre cabane de ses parents. Elle se hâta pour rejoindre sa mère qui devait s'inquiéter. Certes, elle n'avait plus de fruits à manger, mais elle se sentait quand même heureuse d'avoir rendu service. Malgré le froid de la nuit, régnait une douce chaleur au fond de son cœur. Cependant, Nolwenn se retrouva bientôt seule, perdue dans ce bois qu'elle ne connaissait plus pendant la nuit. Elle tâtonna dans l'obscurité, essayant de repérer les collines qu'elle parcourait chaque jour, lorsqu'elle entendit une voix qui murmura. « Toi qui n'avais rien, tu as tout partagé. Toi qui te sentais abandonné, tu as soulagé les autres. Suis maintenant le chemin des étoiles, et surtout, garde confiance. » C'est alors qu'une multitude d'étoiles éclairèrent la route de la jeune fille. Elle formait un chemin et brillait de plus en plus pour guider ses pas. Nolwenn croyait rêver tant le chemin était illuminé. C'est là qu'elle aperçut un grand homme au bois de serre tout auréolé de lumière qui s'approcha et lui dit « N'aie pas peur, jeune fille. Je suis Kernounos, dieu de la forêt, de la nuit et de l'abondance. J'ai vu ton cœur d'or et je souhaite te récompenser. Continue donc de suivre les étoiles. » À nouveau, les dites étoiles semblèrent former un chemin comme pour indiquer la route. Nolwenn les suivit. Elle ne trébuchait plus tant leur lumière l'éclairait. Lorsque les étoiles s'arrêtèrent, la jeune fille réalisa qu'elle était dans une clairière au centre de laquelle se trouvait un énorme dolmen à l'intérieur duquel quelque chose brillait. Elle s'approcha. La terre s'ouvrit alors devant elle et une tribu de korrigans en sortit pour commencer à danser tout autour d'elle. « Voilà Nolwenn, chantait-il, la jeune fille qui a de l'or dans le cœur. Comme elle ne peut pas voir celui qu'elle a à l'intérieur, il faut qu'on lui en donne à l'extérieur. » D'autres korrigans apportèrent alors un vieux chaudron rempli de pièces plus brillantes les unes que les autres. Ils le déposèrent au pied de la jeune fille qui n'osa pas y toucher, effrayée qu'elle était par ces petits êtres noirs aux grandes oreilles et aux yeux rouges. « c'est pour elle !» chantèrent les korrigans. Puis ils retournèrent sous la terre. Ce ne fut que lorsque le silence retomba sur la clairière que Nolwenn osa s'approcher. Elle toucha d'abord le chaudron pour vérifier qu'il était bien réel, puis, constatant que c'était le cas, se décida à le prendre. Une brise se leva qui fit bruisser à l'unisson tous les arbres de la forêt en une mélodie douce de clochettes et de grelots, parfaitement adaptée à cette nuit de Noël. Lorsqu'elle revint chez elle, elle montra le chaudron à ses parents et voulut leur donner la moitié des pièces qu'il y avait à l'intérieur. Mais au miracle, le chaudron ne se vida pas. Ils eurent beau puiser dedans, il resta rempli. Nolwenn et sa famille étaient désormais à l'abri du besoin. Ils s'achetèrent une grande et belle maison dont les murs ne laissaient plus passer le vent, avec une cheminée dans chaque pièce. Puis, en remerciant chaque soir le dieu Kernounos de sa bénédiction, ils distribuèrent de l'or à tous ceux qui en avaient besoin dans leur village et alentour, de sorte que ce fut bientôt la région de Cornouailles, la seule région de Cornouailles où il n'y eut plus un seul pauvre. Mais revenons maintenant à des contes de l'ère chrétienne. C'était il y a bien longtemps. lorsque Adam et Ève furent chassés du paradis, ils parcoururent la terre et vinrent encore Noé où ils s'arrêtèrent et décidèrent de s'établir tellement la région leur rappelait l'endroit merveilleux dont ils avaient été exclus. Ah, pardon, j'entends une remarque d'un auditeur. Qu'est-ce que vous dites, moi, chauvin ? Mais non, juste un petit peu observateur, mais je reprends. Quand l'hiver arriva, Adam et Ève demandèrent à Dieu comment ils allaient faire pour se nourrir et s'abriter. Dieu, qui était en colère contre eux, leur avait seulement permis d'emporter les feuilles des arbres dont ils s'étaient servis pour confectionner des pagnes lorsqu'ils avaient compris qu'ils étaient tout nus. Puis sa colère s'apaisa un peu et il eut pitié de ces pauvres créatures. Pas question toutefois de les reprendre au paradis. Le mal était fait. Il leur conseilla donc de récolter les graines qu'ils avaient emmenées dans les feuilles de leurs pagnes et de les planter. Adam et Ève obéirent. Ils plantèrent ces graines qui devinrent les arbres et les plantes de la belle forêt d'Ouelgouat d'abord, puis de toute la terre ensuite. Comme ces graines venaient du paradis, les arbres et les plantes qui poussèrent restaient verts toute l'année. Ils étaient très fiers de rester verts alors qu'Adam et Ève devaient s'abriter et travailler pour vivre. Ils se considéraient donc comme les chouchous de Dieu. Ça leur monta à la tête et ils devinrent prétentieux. Un jour, sur la côte, un petit goéland ne put revenir vers son nid avec ses amis et sa famille car son aile était brisée. Il lui fallait du temps pour qu'elle se refasse et il savait que l'hiver approchait. Le vent devenait de plus en plus froid. Tremblant sous la bise, il essaya de s'abriter dans le feuillage du chêne qui était considéré alors comme le roi des arbres de la forêt. Mais le voyant parmi ses branches, le chêne le chassa. « Va-t'en ! Tu vas manger tous mes glands et aucun autre chêne ne pourra plus pousser, lui dit-il. » La neige commença à tomber. Malgré cela, le petit goéland, ne voulant déranger personne, quitta le gros arbre pour aller se réfugier dans les branches d'un hêtre, non loin de là. « Ne reste pas là, tu vas picorer mes faines, lui dit le hêtre. La neige tombait de plus en plus. On pouvait maintenant voir les traces des petites pattes de l'oiseau quand il marchait sur le sol. Tremblant de froid et de peur, car il commençait à croire qu'il allait bientôt mourir, le petit goéland alla se cacher dans un bouleau qui le chassa aussitôt avec un coupe-branche. « Va-t'en, tu vas salir mes belles branches noires et blanches !» Le petit oiseau était désespéré. Tous les arbres de la forêt l'avaient chassé. Il se coucha dans la neige froide et décida de se laisser mourir puisque personne ne voulait l'aider. Il était là, allongé, sans bouger, et la neige commençait déjà à le recouvrir, lorsque soudain, il entendit une voix près de lui. « Psst, hé, petit goéland !» Soulevant péniblement la tête, il vit à quelques pas un sapin qui lui faisait signe. Engourdi par le froid, il se releva et se traîna vers lui. « Viens dans mes branches, je te réchaufferai et je te protégerai, lui dit l'arbre. » Le petit oiseau se hissa comme il put dans les branches du sapin et s'y confectionna un nid avec des brindilles et des aiguilles toutes douces et moelleuses. La veille de Noël, Dieu se mit en colère contre l'orgueil des arbres et un vent terrible se mit à souffler aussitôt sur la forêt de Cornouailles. Des rafales de blizzard cassèrent les branches les plus solides. Tous les arbres perdirent leurs feuilles sous la force du vent. Seul, le sapin conserva son feuillage parce qu'il avait accueilli le petit goéland blessé. Et c'est depuis ce temps-là que le sapin et ses cousins, les résineux, restent verts toute l'année. Ce sont les seuls arbres qui, selon la légende, n'ont pas changé depuis qu'ils ont quitté le paradis. On les a donc utilisés pour fêter le retour de Dieu sur la terre, puisque c'est ce que représente Noël pour les chrétiens. Mais pourquoi les boules et les guirlandes, me direz-vous, impatients que vous êtes de tout savoir sur les traditions de Noël ? Mais patience, patience, voilà pourquoi. Quand Adam et Ève furent chassés du paradis pour avoir mangé une pomme, alors que Dieu le leur avait interdit, en fait ils l'avaient fait parce que le diable, sous la forme d'un serpent dans le pommier, avait poussé Ève à le faire. Donc pour se rappeler le paradis perdu, à partir du XVIe siècle, on a accroché des pommes dans le sapin. De belles pommes brillantes, puis on y a mis également des serpents en papier de couleur claire et brillante, afin qu'on les remarque bien et qu'on se souvienne des raisons pour lesquelles les hommes furent chassés du paradis. Seulement il y avait des périodes où les fruits manquaient. Lorsqu'il y avait la guerre, il y avait souvent la famine et on ne trouvait plus de fruits nulle part. Ou alors on considérait que c'était du gâchis de mettre des pommes dans le sapin alors que la famille mourrait de faim. C'était bien normal. Donc on a remplacé ces pommes par des boules en tissu, puis en verre, puis en plastique brillant. Ce sont les boules de Noël que vous connaissez encore aujourd'hui. Les serpents, quant à eux, se sont transformés en guirlandes brillantes. Voilà, mais trêve d'explication. Il est temps d'entendre un autre conte de Noël, de préférence bien calé sous un plaid ou une couette, devant une cheminée où un bon feu crépite, avec une grande tasse de chocolat chaud sur une petite table à côté. En des temps fort reculés, la terre de la pointe de Cornouailles s'avançait beaucoup plus loin et les arbres n'avaient aucun mal à pousser. L'île de Sein, la pointe de la pointe du bec du rat, s'enorgueillissait de voir sur son sol des hêtres, chênes et autres bouleaux en une belle forêt sous laquelle les druides par la suite aimeraient à se promener. L'île un jour se sépara du continent et les arbres continuèrent à pousser. Lorsque le sauveur naquit, Dieu demanda à tous les éléments de la terre, animaux et végétaux, de venir reconnaître l'enfant roi. Ce qu'ils firent tous, sauf les arbres de l'île de Sein, effrayés par la traversée périlleuse et dont la foi n'était pas encore à l'abri de la crainte du voyage, comme en général dans les pays celtiques. À part les chênes, trop fiers, et les saules, trop occupés à faire de la musique, tous les autres arbres étaient bien trop craintifs. Et ils restèrent donc sur l'île, et aucun représentant des arbres de l'île de Sein ne fit le déplacement, ce que Dieu remarqua évidemment, et il leur en demanda la raison. Lorsqu'il vit que les motifs étaient aussi futiles, et le manque de confiance qu'ils avaient en leur seigneur et maître, ainsi que leur absence de dévotion, il entra dans une très grande colère et fit souffler sur l'île de Sein une énorme tempête qui en déracina tous les arbres ainsi que leurs jeunes pousses. Dieu promit de répéter ces bourrasques de façon régulière afin qu'aucun descendant de ces végétaux impies ne puisse reprendre racine en ce lieu. Et c'est ainsi que, depuis 2000 ans, les tempêtes reviennent régulièrement souffler sur la pointe du rat et sur l'île de Sein, dont les végétaux ont manqué de foi en Dieu. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'arbres à Sein et qu'il y a tant de tempêtes. Voilà qui termine notre première partie. Nous nous retrouvons après ce chant de Noël de circonstance. Mon beau sapin, évidemment.
J'aime ta verdure quand par l'hiver bois et guérets sont dépouillés de leurs attraits. Mon beau sapin, roi des forêts, tu gardes ta parure. Que Noël planta chez nous au saint anniversaire. Mon beau sapin, comme ils sont doux, et tes bonbons et tes joujoux. Toi que Noël planta chez nous, scintillant de lumière. Sapin, roi des forêts, tu gardes ta parure. Mon beau sapin, tes vers sommets et leur fidèle ombrage de la foi qui ne ment jamais, de la constance et de la paix. Beau sapin, tes vers sommets m'offrent la douce image.
Merci d'être resté avec nous. Comme chaque semaine, il va s'agir maintenant pour moi de vous lire une histoire créée à partir d'éléments que l'un ou l'une d'entre vous a fait parvenir à notre association. Aujourd'hui, c'est Valérie Kéméré qui a été tirée au sort, et c'est toujours notre bénévole, le jeune auteur de talent Raphaël Méchin, qui a improvisé une histoire à partir des éléments que Valérie nous a envoyés sur notre page Facebook. Ces éléments sont des corrigans, un vieux chêne, des fées, la déforestation, des champignons, des potirons et des châtaignes. Cette histoire est celle d'un groupe de cornicanèdes. Les cornicanèdes, ce sont des corrigans des forêts. Ceux-là vivaient heureux et tranquilles. Ils ne demandaient rien à personne, préférant rester éloignés des humains pour la tranquillité de ces derniers autant que pour la leur. On les appelait cornicanèdes car ils avaient deux petites cornes sur le front. Ils vivaient dans de jolies maisons creusées à même les troncs de chênes très anciens et majestueux, qui montaient si haut qu'on avait l'impression que leurs cimes tentaient de camoufler le ciel. Un jour, pourtant, tandis qu'ils vaquaient à leurs occupations, les cornicanèdes entendirent un fracas immense, loin, très loin dans la forêt. Ils eurent à peine le temps de se demander de quoi il s'agissait qu'un des leurs arriva en courant, dans la principale clairière de la forêt où ils s'étaient tous réunis. Tremblant, soufflant et ahanant, le cornicanède ne put rien dire durant les premières minutes, tellement il avait eu du mal à reprendre son souffle.
Le chêne, parvint-il finalement à articuler. Le chêne qui me servait de maison, il est tombé.
Tombé ? Comment cela ? Demanda l'un de ceux présents.
Il a été frappé par la foudre ?
Des termites l'ont rongé au point de le faire s'écrouler, renchérit un autre.
Ses racines se sont-elles soulevées du sol ? Fit un troisième.
À chaque fois, le cornicanède fit non de la tête.
Il a été abattu. Quelqu'un l'a frappé de sa hache jusqu'à ce qu'il cède et s'écroule.
Tous les cornicanèdes de la clairière restèrent interdits quelques instants, chacun essayant de comprendre la gravité de ce qui venait de leur être révélé.
Mais c'est impossible! Personne ne vient jamais dans notre forêt, encore moins pour y abattre des arbres. Qui pourrait avoir une telle idée?
Je l'ignore.
Dès que j'ai senti que mon arbre ne tiendrait pas, j'ai couru jusqu'ici pour vous prévenir, sans savoir qui était responsable.
À cet instant apparut un autre cornicanède courant et peinant sous l'effort qui s'arrêta près de ses congénères.
Les humains, dit-il. Ils abattent les arbres de la forêt.
Les autres cornicanèdes n'en crurent pas leurs oreilles.
Comment ? Mais pourquoi enfin ?
Je ne sais pas trop, ils plantent des choses bizarres à la place, de nouvelles plantes dorées et fines.
Personne dans la clairière ne comprenait rien à cette histoire.
Les humains détruisaient des plantes pour en mettre d'autres à la place ? Ça n'avait aucun sens.
Toutefois, même s'ils ne saisissaient pas toutes les implications de ce qui était en train d'arriver, une chose était claire. Les arbres contenant les maisons des cornicanèdes étaient en train de disparaître. Un conseil réunissant tous les cornicanèdes de la forêt fut décidé sur le champ, et dès que tout le monde fut présent, ils commencèrent. Les débats tournèrent autour de ce qu'il convenait de faire vis-à-vis des humains. Se montrer à eux pour leur parler, négocier, saboter leurs efforts, leur faire peur pour qu'ils quittent la forêt et n'y reviennent jamais. Chacun avait son idée sur la question. Cela rendait tout consensus impossible. Les cornicanèdes commencèrent donc à se chamailler. C'est alors qu'intervint le plus vieux et le plus sage d'entre eux tous, qui était resté silencieux jusqu'ici. À la seconde où il ouvrit la bouche, tous se turent pour l'écouter.
Il est clair que nous ne parviendrons pas à nous mettre d'accord, en tout cas pas avant qu'il ne soit trop tard pour notre belle forêt. C'est un problème auquel, heureusement, il y a une solution fort simple. Il nous faut demander l'aide et le conseil des fées.
Tous se regardèrent médusés. Aucun d'entre eux n'avait pensé à demander aux fées, qui pourtant partageaient leur forêt, alors qu'elles étaient également concernées. Une délégation fut formée et envoyée vers celles qui habitaient plus loin dans les bois. Les petits cornicanèdes marchèrent longtemps, leur ventre serré par la peur à l'idée d'arriver trop tard pour sauver leur maison. Ils parvinrent finalement en vue de la mare près de laquelle les fées se réunissaient pour se baigner et parler de tout et de rien.
Elles étaient là, en train de s'amuser dans l'eau ou de se reposer sur des roches couvertes de mousse verte bien moelleuse. Les cornicanèdes s'approchèrent prudemment, s'inclinant bien bas dès qu'ils arrivèrent face à la plus majestueuse d'entre elles. « Bien le bonjour, ô grande et puissante reine du peuple des fées, » dirent-ils. « Nous vous présentons les respects de tous les cornicanèdes de la forêt, bien que nous venions à vous dans une heure fort délicate. » « Je vous renvoie votre salut, » répondit la souveraine en inclinant la tête à son tour. « Mais je vous en prie, dites-moi ce qui vous amène, Céan, et quel problème vous a poussé à acquérir notre aide. » « Voilà, grande reine, nos maisons sont en train d'être détruites car les chênes anciens qui les contiennent sont abattus par les humains, sans que nous en comprenions la raison. Si nous ne faisons rien, toute la forêt sera bientôt détruite. » La reine réfléchit quelques instants. « Ils abattent vos arbres, vous dites ? C'est étrange. Savez-vous s'ils plantent quelque chose à la place ?»« Oui, tout à fait, ils remplacent nos chênes par des plantes étranges, dorées et fines. »« Ah, mais c'est bien ce que je pensais. Les humains ne détruisent pas vos arbres par plaisir, ils le font pour planter du blé, ce qui leur permettra de manger. »« Ah, donc si nous les empêchons de détruire nos foyers, nous les empêchons de manger ? Mais que pouvons-nous faire dans ce cas ? » ?»« C'est très simple en réalité, » répondit la reine des fées. « Il vous suffit de leur montrer comment trouver à manger sans qu'ils aient besoin de faire pousser des cultures, la même où se tenaient vos chênes. Montrez-leur comment trouver à ramasser des champignons, des châtaignes, voire même des potirons qui poussent naturellement au fond des bois. Si les humains apprennent qu'ils peuvent se nourrir sans avoir à faire l'effort d'abattre les arbres de la forêt, ils n'auront aucune raison de continuer, n'est-ce pas ?» Les cornicanèdes s'entre-regardèrent et convinrent qu'il s'agissait sans doute là de la meilleure solution. Ils remercièrent la reine pour ses sages conseils, puis repartirent dans les bois, ramassant sur leur chemin autant de champignons comestibles, de châtaignes et de potirons qu'ils pouvaient emporter. Ils finirent par arriver à la lisière de la forêt, devant les humains occupés à continuer leur déforestation. Ces derniers, levant les yeux de leurs ouvrages, restèrent interdits quelques secondes devant les petits êtres qui venaient leur rendre visite, mais voyant qu'ils ne semblaient pas leur vouloir de mal et que leurs bras étaient chargés de plantes étranges, ils s'approchèrent prudemment. « Salutations, humains !» fit d'une voix enthousiaste l'un des cornicanèdes. « Nous savons que vous abattez nos arbres pour vous nourrir. Cependant, nous avons besoin de ces chênes pour y construire nos foyers. Aussi voulons-nous vous aider à trouver de quoi manger, sans avoir besoin pour vous de vous épuiser en coupant la forêt. Qu'en dites-vous ? » Les humains se regardèrent. Ils avaient bien avancé, mais le travail était fatigant et couper des arbres ne leur plaisait pas beaucoup, encore moins maintenant qu'ils savaient que d'autres en avaient l'utilité. Après une courte réflexion, ils acceptèrent donc la proposition des cornicanèdes, qui partagèrent désormais avec joie les trésors de leur forêt dont ils savaient maintenant qu'elle était en sécurité. « Voilà Corinne, je pense que tous vos éléments ont été utilisés. Dites-nous ce que vous en pensez, vous, sur notre page Facebook. » C'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de « Il était une fois en Cornouailles ». 26 minutes en terre des fées, rien que pour vous, avec la maison des contes et légendes de Cornouailles. D'ici là, Kenavo, Avéchal.